Alors pour ceux qui veulent faire le jogging demain matin en virtuel, vous pouvez me rejoindre, il n'y a pas de problème, on le fera ensemble. On va peut-être maintenant attaquer la première session avec le doyen Touzé qui nous rejoint également. Alors il y a une... Venez, excusez-moi, je ne connais pas votre nom. Représentant de la NEMF, des étudiants en médecine. On nous a le professeur Benoît Weber de Rouen. Et puis, doit venir également peut-être la dame qui est en train de se préparer, représentant des étudiantes en soins infirmiers, c'est ça? Venez nous rejoindre à la table. Le thème général de cette session, qui sera plus un panel de discussion, et on espère que vous allez participer un peu avec nous, c'est de voir quelle est la place actuelle de la simulation dans les cursus de santé, la place actuelle, et de voir comment on pourrait envisager dans les prochaines années dans notre pays, et peut-être en corrélation avec ce qui se passe potentiellement dans d'autres pays, eh bien, la place de la simulation dans le monde de la santé. Je vais peut-être rejoindre, ou je vais peut-être rester ici, comme vous voulez, pour faire un peu le modérateur. Je vous rejoindre.
Peut-être pour commencer, c'est un sujet très vaste évidemment, sujet très très nouveau, et peut-être pour commencer, le doyen Touzé tout à l'heure a évoqué quelque chose qui me paraît très important et qui peut-être n'est pas encore très clair dans nos esprits à nous tous, c'est le passage finalement, la transition actuelle qui est en train de se faire entre finalement l'apprentissage par l'expérience sur le terrain. J'ai vu des cas au cours de ma formation et c'est comme ça que j'ai appris finalement un certain nombre de choses, à ce qu'on appelle maintenant la formation liée à la compétence que vous avez évoquée. Est-ce que vous seriez d'accord pour en dire quelques mots, pour expliquer le concept un petit peu, pour qu'on se mette tous à niveau là-dessus, et voir quelle différence majeure il y a par rapport au modèle traditionnel de formation?
Ce que je constate, c'est que le numerus clausus ayant énormément augmenté, on a beaucoup d'étudiants à gérer et on n'a pas plus d'enseignants. En plus, les enseignants sont de plus en plus impliqués dans un travail clinique et sont moins au contact direct des étudiants. Alors, ce qui veut dire que le modèle classique de compagnonnage, il est peut-être plus aussi efficace qu'avant. Et on a du mal à former nos étudiants à des choses basiques comme la sémiologie, je trouve. Malgré tous les efforts qu'on fait tous, et je crois que Benoît pourra compléter, tous les modèles qu'on essaye montrent qu'ils sont imparfaits, insuffisants, avec une grande hétérogénéité selon là où ça se passe, selon qui encadre. Donc on se retrouve avec des étudiants qui sont en difficulté sur des choses très, très simples d'interrogatoire, d'examen clinique de base, de raisonnement au lit du patient. Lorsqu'on les évalue au cours du deuxième cycle, on a des étudiants en grande difficulté. Et on est inquiet de les lâcher en troisième cycle comme ça. Surtout que l'ECN, finalement, il va surtout évaluer des connaissances et assez peu, très peu les compétences. Donc, je crois que la simulation, avec des outils qui sont maintenant relativement standardisés, du matériel qui a beaucoup évolué, même si ça reste essentiellement de la basse fidélité pour nos étudiants, va pouvoir assurer un minimum, une homogénéité dans la formation, mais aussi dans l'évaluation, parce que il y a formation et évaluation. Et De la même façon qu'ils ont du mal à se former aux compétences vraiment techniques, savoir-faire, savoir-être, il y a aussi pour nous des difficultés à les évaluer. Et lorsqu'on les évalue eux-mêmes sur des méthodes soit d'ECOS, soit d'examen clinique standardisé, eh bien, c'est souvent un peu... Enfin, souvent, ça se fait dans un temps très court, le débriefing ne se fait pas vraiment, et puis les enseignants ne sont pas toujours formés à faire du débriefing, et ça, on a des situations assez dramatiques parfois, des étudiants qui se retrouvent vraiment mis en situation difficile. La simulation permet, je pense, d'organiser, de standardiser et d'évaluer nos étudiants. Alors, mais ça veut dire que c'est un vrai changement dans nos modèles. Hein. Il va falloir trouver une organisation entre une partie en simulation, tout en gardant quand même une partie dans les stages cliniques, malgré tout, mais peut-être qu'ils seront mieux armés s'ils ont déjà fait un certain nombre d'exercices en simulation. Je crois que c'est un modèle qui est en train de changer actuellement.
Est-ce que vous voulez faire un commentaire les uns les autres sur cet aspect de compétences ?
Donc, si je pourrais agir par rapport à ça, donc je me présente. Moi, je m'appelle Émilie Lensner, je suis vice-présidente chargée de la santé globale à la NEMF. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je le précise, avec les industriels de la simulation. Je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez vis-à-vis du décalage qu'on peut avoir aujourd'hui dans les études de médecine, justement, par rapport à ce qu'on nous demande, par rapport à l'évaluation qui est faite sur les connaissances théoriques et uniquement les connaissances théoriques aujourd'hui par rapport à l'ECN. Je pense que ça crée aussi une grande souffrance chez les étudiants en médecine. Hier, justement, il y avait la sortie du rapport de Natamara sur le bien-être des étudiants en santé. Et c'est dans ce rapport, il y a une grande place qui est faite à la simulation. Et en fait, c'est comment est-ce que la simulation devrait être plus développée pour en fait aider, compagnonner et accompagner en fait les étudiants en médecine par rapport à ça. Je pense qu'en médecine, dans l'étude de médecine, on a besoin vraiment d'innovation pédagogique. Je pense que c'est vraiment un besoin fondamental. Et quand je dis innovation pédagogique, c'est aussi par rapport à la simulation. Et en fait, au-delà de la simulation, c'est comment être formé, comment acquérir des compétences, qu'elles soient procédurales, qu'elles soient relationnelles vis-à-vis du patient. Parce que finalement, si on est mieux formé, on sera aussi mieux armé en stage le jour où on devra affronter des situations un peu difficiles. Je voulais aussi faire une aparté parce que, par exemple, cette année, en fait, on avait lancé une enquête au niveau de la NEMF auprès des étudiants en médecine. En fait, il y avait plus de 2/3 des étudiants qui souhaitaient justement avoir une intégration de la simulation par rapport en fait, à l'enseignement des sciences humaines et sociales dans leur cursus. Donc ça montre que finalement, c'est très transversal, que c'est pas juste apprendre, je sais pas moi, la réanimation cardio-pulmonaire sur un mannequin, en fait, c'est juste comment apprendre la médecine en dehors du stage. Donc après, bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler après, mais je vais essayer de la parole.
Peut-être juste si vous pouvez préciser ce rapport dont vous venez de parler, moi dont je n'ai pas connaissance de ce rapport.
Il est sorti hier
après-midi, donc donc on ne l'a pas vu encore. Dire deux petits mots, c'est qui l'a écrit, son contenu, et vous avez cité la simulation au sein de ce rapport. C'est quoi ? C'est une belle envolée lyrique en disant qu'il faudrait en faire, ou bien il y a déjà des propositions très pratiques qui sont contenues dedans ?
Alors en fait, donc, c'est un rapport qui a été rédigé.
Vous l'avez lu.
Bien sûr. C'est un rapport qui a été rédigé par Donatamara, qui a été commandé donc par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et également le ministère de la Santé. Donatamara, c'est une psychiatre donc de Paris 6, de Sorbonne Université. C'est un rapport qui est accompagné de 15 mesures ministérielles sur en fait, l'évolution des études de santé et en fait sur comment prendre en charge les étudiants en santé pour améliorer en fait leurs conditions leur condition d'études et leur bien-être parce qu'il y a aujourd'hui une situation qui est quand même assez dramatique sur ce point-là.
Et donc là vous n'avez pas répondu sur la simulation dans ce rapport. Qu'est-ce qu'ils disent, quelque chose de très précis ou bien c'est une projection indiquant que ça serait un moyen potentiel. Est-ce que ça va assez loin ou est-ce que c'est juste préliminaire?
Alors, donc c'est préliminaire effectivement, mais c'est quand même bien réaffirmé. Aujourd'hui, la simulation, elle est quand même intégrée dans la majorité des UFR de médecine, en tout cas, bon, je parle pour médecine. Mais effectivement, c'est à développer et c'est quand même un acte qui est fait pour le développement de la simulation là-dedans.
C'est un axe intéressant.
Oui, je veux bien dire un petit mot. Effectivement. Il faut vraiment différencier connaissances et compétences. On voit bien que les compétences, c'est plus complexe. On est on monte dans la pyramide du savoir, en y associant du savoir-être et du savoir procédural. Et donc, c'est sûrement l'objectif. La simulation est une aide évidente, même s'il n'y a peut-être pas tant de démonstrations scientifiques, c'est une aide évidente. Et je crois que le débat n'est plus de savoir si ça doit participer, ça doit s'intégrer dans nos études, dans les études médicales ou dans les études en santé, mais comment, et sans oublier qu'il y a plusieurs cycles, hein, premier, deuxième et troisième cycle, et c'est peut-être pas la même approche en termes de simulation en premier, deuxième et troisième cycle. Et puis par ailleurs, les vraies questions finalement, c'est malgré tout quels sont les moyens qui sont associés, d'où la question de Dan Benamou sur savoir si c'était une injonction du ministère, si enfin on a une vision claire ou si c'est juste une idée. Si c'est une idée, malheureusement, ça ne nous aidera pas beaucoup. Si c'est une nécessité, si ça devient une obligation dans le parcours des étudiants, à ce moment-là, il faudra que les universités nous aident, ce qui n'est pas encore complètement, je crois, le cas, et ce qui pose quelques difficultés. À Rouen, on a un Medical Training Center qui est surtout hospitalier, pas assez universitaire, et on voit bien que là, il y a un équilibre à trouver pour que les étudiants puissent avoir leur place. Et une fois qu'on a dit ça, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir quelle place ils ont. Je veux dire par là, non seulement ils peuvent être étudiants, mais je crois qu'ils peuvent participer directement comme acteurs à leur formation. Et il y a quelques données, notamment à Nice, qui montrent que les étudiants qui sont tuteurs de formation en simulation ont des meilleurs résultats aux examens. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et donc, on voit bien que l'étudiant acteur proprement de sa formation dans le cadre de la simulation, c'est sûrement une nécessité innovante. Vous cherchez l'innovation pédagogique, je crois que c'en est une belle. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, patient simulé, voilà, participant directement au fonctionnement de cette simulation, dont on voit bien qu'on a des promotions à 232 comme à Rouen, ben, ça demande un petit peu d'imagination.
Peut-être, madame, si vous voulez commenter, parce qu'on a évoqué le rôle de la simulation, notamment dans les textes. Alors, par exemple, en médecine, est sorti il y a à peu près un an, sur la réforme du troisième cycle, des aspects très précis pour chaque discipline médicale sur la place de la simulation et de façon extrêmement détaillée dans le document, dans l'arrêté. Est-ce que c'est le cas en soins infirmiers ou bien on est encore dans un flou général? Où est-ce qu'on en est dans les autres disciplines, disons, non médicales?
Alors déjà, bonjour à tous, je me présente, Lucie Léon, donc je suis la vice-présidente de la FNESI, Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers. Donc pour nous, c'est assez compliqué. On va vers cette simulation, on y va de plus en plus, ça se développe dans beaucoup d'IFSI actuellement. Nous, le souci qu'on a, c'est que ça se développe majoritairement dans les métropoles. On a des promotions qui sont très inégales selon les endroits. On a des IFSI où il y a des promotions à 70 étudiants, des IFSI où on a des promotions à 110 étudiants. C'est pas la même prise en charge au niveau de la simulation. Et surtout, c'est pas la même répartition. C'est-à-dire que les territoires qui sont ruraux, majoritairement, qui ne sont pas en métropole, sont délaissés. Et du coup, on n'a plus de simulation dans ces endroits. Enfin, on n'a pas de simulation dans ces endroits-là. C'est une grosse inégalité qu'on ressent beaucoup. Il y a des étudiants qui ne vont pas y avoir accès, qui vont avoir des difficultés quand ils vont du coup être diplômés ou même tout simplement pendant leur formation aller sur les lieux de stage. C'est quelque chose qui est confirmé et qui est du coup beaucoup demandé au niveau de l'apprentissage par simulation. Nous, le gros souci qu'on a aussi, c'est que là où se met en place la simulation, comme vous le disiez tout à l'heure, nos formateurs ne sont pas formés. Du coup, ça ne va pas forcément être fluide, ça ne va pas forcément être mis en place correctement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la mise en place de la simulation sur tout le territoire, mais beaucoup aussi au niveau de la formation des formateurs, pour que ce soit utilisé, mais de la bonne manière, et pour que les étudiants puissent s'en servir à bon escient sur les lieux de stage. Ensuite, je vais donner le bon côté, nous, ce qui ressort des étudiants. Tu parlais du rapport de Donat Amara qui est sorti hier. Nous, ce qui est ressorti des étudiants en soins infirmiers, c'est que souvent, quand ils vont sur les lieux de stage, des fois, ils font la première fois leurs gestes, leurs soins sur les patients. C'est quelque chose qui est beaucoup dénoncé dans notre formation, parce qu'on se retrouve face à des étudiants qui vont se mettre en difficulté, qui vont des fois mettre en difficulté les patients, mettre en difficulté les encadrants, les professionnels de santé. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut agir rapidement, parce que du coup, nos étudiants se sentent en insécurité quand ils vont arriver sur les lieux de stage. Je pense que les études de santé ne sont pas des formations faciles, et c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer pour le bien-être des étudiants, mais aussi pour le bien-être dans les services, quand les encadrants doivent encadrer des étudiants, qu'ils ne se retrouvent pas face à des personnes qui sont complètement déstabilisées et stressées parce qu'elles doivent réaliser un acte complexe sur un patient pour la première fois. Je vais rebondir sur une dernière chose, du coup, ça empiète un petit peu sur un autre sujet. Je pense aussi que la simulation dans les études, elles doivent se faire en interprofessionnalité. On en parle de plus en plus aujourd'hui, l'interprofessionnalité dans les études, la mutualisation des compétences. C'est quelque chose d'intéressant, mais je pense que ça doit se répercuter aussi sur l'apprentissage des soins sur le terrain. Mais du coup, comme c'est compliqué pour la première fois sur le patient, on le disait tout à l'heure, je pense que la simulation pour, par exemple, une réanimation cardiaque avec une aide-soignante qui va être présente, un infirmier, un médecin, pourquoi pas d'autres professionnels de santé. Ça peut être aussi dans le cadre de prise en soins complexes, polypathologiques. Comment est-ce qu'on va prendre les décisions pour tout ce qui va être aussi les débats éthiques, par exemple, pourquoi pas faire de la simulation de débats éthiques en équipe avec des étudiants de différentes filières. Je pense que c'est des choses qui vont faire sens, notamment à la suite de la mise en place du service sanitaire, dont on parle beaucoup actuellement. Voilà, c'est des choses qui, je pense, doivent se mettre en place. Pour ça, on a besoin de financement, c'est sûr, tout repose un petit peu là-dessus. Du coup, on espère qu'à la suite du rapport de Donat Amara qui annonçait justement la mise en place de cette simulation qui doit se répandre, des financements seront débloqués pour que ça puisse se mettre en place sur le terrain.
Je pense qu'il faut qu'on lise tous ce rapport-là, hein, parce que là, ça a l'air d'être important. Hein. Est-ce que, bien entendu, là, il y a des panélistes là, autour de moi, mais... on est tout à fait intéressé à vous entendre. Si vous avez des commentaires à faire sur les remarques un peu générales là, qui ont été faites jusqu'à maintenant, pour que ça soit, je trouve, intéressant, c'est que vous puissiez également participer. Il y a des micros, je pense, à différents endroits dans la salle. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous lever et venir faire des commentaires ou poser des questions aux différentes personnes qui sont présentes pour que ça soit un peu interactif. Peut-être en attendant que des questions viennent, j'aimerais bien peut-être rebondir sur l'histoire de l'interprofessionnel. Peut-être vous voulez d'abord faire un autre commentaire, allez-y.
Oui, c'était juste pour rebondir sur les formations de paramédicales. C'est vrai que la répartition territoriale, elle est importante, mais pose quelques problèmes d'organisation de la formation, surtout si on veut faire l'interprofessionnalité. Donc, c'est le risque, c'est la double peine. Des instituts qui sont en dehors des métropoles, qui à la fois n'ont pas accès à la simulation, et même s'ils avaient accès à la simulation, de toute façon, elle pourrait être difficilement interprofessionnelle, puisqu'il n'y a pas souvent les étudiants en médecine, la pharmacie, éventuellement il peut y avoir les kinés. Donc ça c'est un modèle à creuser. Ça va impliquer des déplacements des étudiants, des enseignants. Alors ça peut être les étudiants soit infirmiers qui vont vers les autres, ou à l'inverse, c'est les étudiants en médecine, pharmacie qui vont aller sur les territoires. Et je crois que le service sanitaire sera un bon modèle pour tester ça, puisqu'il se veut être interprofessionnel, il se veut être sur les territoires en réduisant l'inégalité d'accès aux soins. Donc ce sera l'occasion de faire de l'interprofessionnalité. Alors je ne sais pas si on utilisera de la simulation, mais probablement qu'on utilisera des choses qui ressemblent un petit peu à la simulation, puisqu'il faudra faire un peu des jeux de rôle, puisqu'il faudra que les étudiants apprennent ensemble à mener des projets, à mener des projets qui vont essayer de convaincre leur public, qui va être très diversifié entre des collégiens, des lycéens, des étudiants ou des personnes âgées. Donc il y aura, je pense, des exercices qui se rapprocheront de la simulation, d'exercices en petits groupes, en interprofessionnalité. Peut-être que les centres de simulation devraient trouver une place là-dedans, je pense, dans l'organisation du service sanitaire.
Des commentaires sur cet aspect-là, non ? N'hésitez pas à vous lever au fur et à mesure du débat pour participer si vous le souhaitez. Sur l'histoire de l'interprofessionnalité, c'est évidemment une bonne idée je pense à laquelle il est difficile de ne pas adhérer sur le principe. La réalisation pratique est super compliquée quand même. Même en dehors de l'aspect particulier de ce que vous appelez en dehors des métropoles, même dans les centres dans lesquels il y a la capacité, je dirais, physique pour les gens d'être pas trop loin les uns des autres, c'est quand même drôlement compliqué. Pour la formation initiale, par exemple, de réussir à mettre dans des salles en même temps des étudiants en soins infirmiers, des étudiants en médecine, y compris même pour des choses aussi simples, si je puis dire, que les cours. C'est pas du tout facile. Nous, on essaye, dans notre faculté de médecine, on a essayé, et on se rend compte à quel point c'est difficile, parce que les cursus sont pas parallèles, on a du mal à trouver les moments pour le faire. Du coup, quand on a un nombre d'étudiants en médecine X et un nombre d'étudiants en soins infirmiers Y, qui du coup, les deux ensemble font des volumes qui sont très importants, ou trouver les salles pour pouvoir les mettre ensemble, enfin, des choses aussi bêtes ou simples que ça sont des choses assez difficiles à réaliser. Et puis, par exemple, un autre qui montre aussi que la culture n'y est pas encore, c'est que par exemple, quand on a des cours, pour rester encore sur l'aspect le plus simple, avant même la simulation qui est déjà les cours communs, en fait, on voit dans les cours souvent des paquets d'étudiants en médecine, des paquets d'étudiants sont infirmiers, puis ils sont dans la même salle, quoi. Mais ils ne sont pas vraiment ensemble. Peut-être tu vas faire un commentaire, puis après, peut-être toutes les deux, vous nous direz comment vous voyez un peu ça. Comment est-ce qu'on pourrait régler, améliorer cette difficulté-là?
Oui, je veux bien faire un commentaire. Je pense que déjà le service sanitaire va donner cette culture du mélange interprofessionnel de ces étudiants qui vont aller dans une maison de retraite en équipe, le pharmacien, le médecin, l'infirmier, etc. Et ça sera une culture qui sera instaurée tôt dans les cursus, et je pense que c'est bien, même si c'est pas simple à mettre en œuvre, quand même, parce que je pense que je partagerai avec mon voisin le fait qu'on s'arrache un peu les cheveux pour savoir comment on va faire ça l'année prochaine, mais on va y arriver. Par ailleurs, je pense que c'est plus simple de faire de la simulation en interprofessionnel par petits groupes, parce que par définition la simulation c'est du travail en petits groupes, que de faire des cours. Les cours, on n'a pas tout à fait le même cible pédagogique, on n'a pas tout à fait le même langage quand on s'adresse à un étudiant sage-femme, un étudiant en médecine, un étudiant en pharmacie, un étudiant en soins infirmiers. Et donc je pense que c'est assez complexe, les cours communs. Il y a sûrement du tronc commun, mais c'est assez complexe. Par contre, en simulation, en tout cas en troisième cycle, l'expérience qu'on en a, c'est que c'est extrêmement profitable de mettre un interne, par exemple, d'anesthésie-réanimation, avec un élève IAD, et de les faire travailler ensemble autour du mannequin. Et là, tout de suite, la dynamique interprofessionnelle se met en place au bénéfice de chacun. Et donc, finalement, c'est peut-être bien par la simulation qu'il faut travailler l'interprofessionnalité. C'est ça que je veux dire.
La difficulté, c'est le nombre.
C'est ce que j'allais dire. Je pense que le troisième cycle, on a aussi beaucoup d'étudiants, mais ils sont séparés en différentes disciplines, et donc la simulation, elle va être organisée par discipline, même s'il peut y avoir des formations transversales, tandis que le premier et deuxième cycle, on doit gérer des masses très importantes d'étudiants. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on remplace un certain nombre de choses par la simulation. Et voilà, c'est juste, il faut qu'on accepte de faire moins d'heures de cours, enfin, tout ce qui est théorique, ils peuvent le travailler, on le débriefe, y compris en simulation, enfin, il faut qu'on change, quoi.
Alors, même si la formation en interprofessionnalité est difficile, c'est déjà une réalité. Si je prends ma spécialité, donc la néonatologie, on forme en simulation haute technicité avec les internes de pédiatrie, les élèves sages-femmes, les élèves puéricultrices, les élèves IAD, la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. On le fait aussi, c'est peut-être plus original, sur la réflexion en éthique, toujours dans le cadre de la périnatalité, avec les étudiants en médecine, les élèves sages-femmes, les élèves puéricultrices. Donc effectivement, on y arrive. Alors je ne dis pas qu'on fait pour tout, mais dans certaines niches, qui se proposent bien à ce genre de formation, je pense qu'il faut essayer de les développer. Alors effectivement, il y a une question d'organisation, il faut synchroniser les agendas, donc effectivement, il y a un gros travail de coordination. Mais on y arrive dans certains domaines un peu spécifiques, et je pense que c'est ces domaines-là qu'il faut essayer de multiplier.
Je pense que les mentalités évoluent aussi. Je pense que le temps où on avait d'un côté la formation des médecins, d'un côté la formation des étudiants en soins infirmiers, enfin, et une séparation vraiment nette au niveau des cursus, je pense que c'est fini ça aujourd'hui. Encore une fois, les mentalités évoluent. Je pourrais donner l'exemple, par exemple, du tutorat en santé. En fait, il faut savoir que pour la PACES, il y a une préparation qui est faite par des étudiants pour des étudiants. Donc c'est le tutorat en fait PACES qui est en général pluridisciplinaire. Donc il y a des étudiants de toutes les filières qui participent à ça, et ça crée aussi un sentiment d'interprofessionnalité dès le départ en fait des études de santé. Après, je pense qu'au-delà de la difficulté organisationnelle, il y a aussi la question du financement. Parce que finalement, pour financer des centres qui soient interpro, mais des centres qui puissent en fait former à toutes les à toutes les compétences, il faut aussi un financement derrière. Et la question que moi j'aimerais poser, c'est aujourd'hui on a eu une enveloppe budgétaire par le ministère, par les organisations pour développer ces centres-là. Et en fait, quid de la suite? Ce que nous on a entendu en tant qu'étudiants, c'est qu'on n'aura pas forcément plus de financement pour en fait prolonger toutes les actions qu'on a pu avoir. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'enjeux, on a beaucoup d'envie, mais après la question de la réalisation, parfois sur le terrain, elle est difficile. Et je pense par exemple à toutes les questions qui peuvent être posées autour de la formation continue et de la formation initiale. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de centres en fait de simulation qui servent autant à la formation continue qu'à la formation initiale, et parfois plus à la formation continue qu'à la formation initiale. Donc la question, c'est aussi quelle place est laissée aux étudiants là-dedans et à la formation pour les étudiants.
Je pense qu'il y a deux choses. La formation initiale va forcément coûter en fait de l'argent aux universités. Après, la formation initiale en premier et deuxième cycle, c'est pas tellement des moyens techniques, je dirais, c'est plus des moyens humains, c'est qu'il faut s'organiser pour faire des travaux en petits groupes, c'est plus ça. La formation en troisième cycle, là on commence à toucher à des choses un peu plus complexes, avec de la haute fidélité, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le modèle de financement. Ça, pour le troisième cycle, on ne sait pas comment faire. Donc il faut faire de la formation continue pour se dire on va financer la formation initiale des étudiants en troisième cycle. Mais même comme ça, je pense que la plupart des centres de simulation n'équilibrent pas vraiment leur budget.
Moi, je voulais rebondir sur la mise en place. On pourrait tout autant imaginer pour le lancement comme il s'est fait à Angers, d'après ce que j'ai compris par un enseignant qui exerce là-bas. Il crée des journées où les étudiants de différentes filières se regroupent pour favoriser l'interprofessionnalité. Ils font pas de la simulation dans ce cadre-là, mais on pourrait imaginer ce format-là avec, du coup, sur des années, des journées définies où les étudiants, sur leur temps d'études ou sur leur temps de stage, se rejoignent et organiser ce genre de mise en place pour le départ, en attendant que, justement, on puisse trouver une organisation stable et qui soit adaptable au niveau national, j'entends. Je pense que c'est un bon moyen de se lancer et de lancer la chose que de faire ça par des instants ponctuels, et ça créerait justement d'autant plus le sentiment de non-hiérarchisation, je dirais, entre les différentes filières.
Excusez-moi, mais du coup je vais intervenir. Donc Cécile Rouillard, je suis directrice de l'école de sage-femme d'Angers, et je voulais intervenir sur cette notion de pluridisciplinarité en formation initiale. Je suis un peu sur deux points, en me disant que la première chose, je pense que c'est qu'il faut que les enseignants des différentes disciplines et des différents métiers arrivent à travailler ensemble, parce que faire travailler des étudiants ensemble, ça fonctionnera si on arrive à avoir nous aussi un périmètre d'échange et à montrer qu'on est capable de le faire. Et la deuxième chose, c'est probablement aussi de travailler avec des étudiants et en formation par les pairs. C'est-à-dire que là, on a 25 étudiants sages-femmes qui forment 200 externes de troisième année à l'accouchement voix basse. Donc on a des étudiants qu'on a certifiés à l'accouchement voix basse, donc ils ont gagné en expertise et ils vont former les externes. Au départ, on était très présents que ce soit les gynécos ou nous. Et finalement, aujourd'hui, on laisse les étudiants se former par entre eux, avec une vigilance et effectivement une possibilité d'être là pour les aider s'il y avait des questions particulières. Donc voilà, je trouvais qu'en termes de coûts, ça marchait assez bien. On a augmenté la performance et les compétences des étudiants sages-femmes en matière de pédagogie et d'habileté. Et à la fois, on a formé 200 externes qui se sont intéressés, qui ont pratiqué. Puisqu'un défaut de la formation auparavant, c'était d'avoir 50 externes autour d'un mannequin passif qui regardait un chef de clinique faire un accouchement. Donc voilà, donc c'était juste un retour d'expérience.
Merci. Oui, pour compléter ce que vous venez de dire, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a commencé, il y a même Herbreto qui est par là, qui est notre cadre du centre de simulation. Nous avons commencé des séances d'interprofessionnalité entre étudiants en médecine et élèves infirmières pour certaines compétences procédurales comme la ponction lombaire. Est-ce que, et ça, je veux dire, mais c'est un boulot d'organisation qui n'est pas simple, en effet, tu avais raison, Dan. Et puis la deuxième chose, en effet, il y a des journées d'interprofessionnalité où tous les étudiants se rassemblent. La prochaine a lieu dans un ou deux mois, je crois. Mais là aussi, c'est un gros problème d'organisation, mais il faut absolument apprendre à travailler ensemble. Ça, c'est clair. C'est la médecine de demain. Et évidemment, vous avez parfaitement raison. Alors, juste un petit mot, puisque j'ai le micro, pour parler du financement que M. Touzet évoquait à l'instant. En effet, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de centre bénéficiaire. Nous sommes nous-mêmes déficitaires. Mais pourquoi aussi? Parce que, alors là, c'est peut-être un sujet de discussion, la formation initiale dans les études de médecine en France est très peu chère, n'est-ce pas, monsieur le doyen? Et on pose la question, alors ça pose aussi, je pose aussi la question aux étudiants, puisque nous avons par exemple dans notre centre, on fait des évaluations et se demander s'il y avait une participation des étudiants un peu plus importante à l'inscription. Et on a calculé qu'actuellement, nous avons un déficit dans notre centre sur un budget global de 4 à 500 000 euros, entre 4 et 500 000 euros. Nous avons un déficit de 100, un peu plus de 100 000 euros cette année. Et on a calculé, on a eu 5 600 passages en 2017, on a calculé, dont presque 3 000 en formation initiale. Et on a calculé que si on demandait 50 euros par an, par étudiant, on serait à l'équilibre. Alors c'est une question que je pose aux représentants des étudiants. Est-ce que vous êtes prêts, dans le contexte actuel, à payer un peu plus? Alors je sais que le sujet est sensible, monsieur le doyen, monsieur le président, mais c'est une question que je profite pour vous poser parce qu'elle est d'importance. Elle est d'importance parce que nos hôpitaux aujourd'hui, en particulier nos hôpitaux, les universités un peu moins, mais sont en difficulté financière, et que leur demander de l'argent à eux, ça paraît difficile. Et juste un petit mot pour le ministère. Bon, le ministère accorde depuis 2013, vous le savez, 8,2 millions d'euros pour la simulation. Marisol Touraine avait promis il y a 2 ans, à la suite de l'affaire des touchés pelviens, d'augmenter ce budget à 12 ou 13 millions. Ça n'a pas été fait. Et je ne crois pas, dans le contexte financier actuel, que ça va augmenter. Alors voilà, ma question est pour les étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors du coup, c'est une question qui est compliquée, c'est-à-dire que 50 euros de plus par an par étudiant, je pense que ça devrait être compris en fait de base dans les frais qu'on met pour rentrer dans notre formation. Pour vous parler de la formation en soins infirmiers, parce que c'est celle que je maîtrise, on a déjà beaucoup de frais qui sont engendrés actuellement par le concours infirmier, par les prépas si besoin, par quand on arrive il faut payer nos tenues, il faut payer tout le matériel qui va avec, les livres. Enfin, on a un coût de la rentrée qui est l'un des plus élevés chez les étudiants de l'enseignement supérieur. Je pense que 50 euros ça fait la différence, surtout qu'on a quand même une diversité dans notre formation qui fait qu'à la fois on a des étudiants qui vont être de classe moyenne, qui vont être de classe sociale vraiment très variée, mais en faisant ça, on va du coup encore niveler notre formation avec du coup la précarité des étudiants qui va augmenter et qui est déjà présente. Je pense que 50 euros par an, ça reste énorme, ça reste un coût énorme, et je trouve ce qui est dommage, c'est qu'on en arrive à demander aux étudiants de devoir mettre de l'argent pour leur formation, et je trouve ça dommage que l'initiative ne vienne pas d'ailleurs, justement, comme vous le disiez juste avant. Mais actuellement, je ne peux pas parler pour la fédération et pour tous les étudiants que je représente, parce que c'est une question que vous me posez et qui n'est jamais arrivée avant, mais en prenant partie personnellement, je vous dirais que non, je ne serais pas prête. Et on a déjà de la simulation. Et pour moi, ce n'est pas aux étudiants de payer pour mettre la simulation en place.
Et je rejoins Lucie sur la question. C'est une question compliquée, mais faut aussi, ouais, pareil, nous, effectivement, on avait fait un coup de la rentrée pour savoir en fait, à combien était évalué l'argent qui peut être dépensé par les étudiants, un étudiant en premier cycle, un étudiant en second cycle. Faut savoir qu'en second cycle, par exemple, nous, on a le prix des collèges à acheter, qui représente à peu près 1 000 euros par étudiant. C'est un coût extrêmement élevé, sachant qu'un étudiant en médecine va être, un externe, par exemple, va être rémunéré entre 100 et 300 euros par mois pendant son cursus d'externat. Je pense que la question plus large, c'est pourquoi est-ce qu'un étudiant en fait, devrait payer son cursus universitaire au-delà des coûts en fait, de l'inscription à l'université. Je pense qu'on est quand même dans un modèle en France où l'université doit être aussi accessible pour tous. Et je pense que le fait d'établir une sélection par l'argent, je ne sais pas si c'est vraiment vers ce modèle-là, vers lequel on voudrait se tourner aujourd'hui. C'est une question qui, effectivement, mérite réflexion. Je pense que les étudiants, aujourd'hui, sont quand même dans une situation suffisamment difficile pour qu'on leur ajoute un coût supplémentaire. Après, c'est une question qui mériterait, je pense, un débat un peu plus vaste que ça.
Oui, je pense que c'est difficile de centrer la question du coût des études sur la simulation. Je pense qu'il faut voir beaucoup plus large sur combien ça coûte des études. Faudrait que je voie avec l'université comment s'il y a des calculs qui sont faits par rapport à ça. Et on se pose pas la question sur d'autres choses qu'on fait. Est-ce que ça coûte finalement plus cher que ça devrait. Là, la simulation, on trouve que ça coûte parce qu'on individualise les coûts dans la plupart des centres, c'est-à-dire qu'on fait de la comptabilité analytique, alors qu'on ne fait pas de comptabilité analytique sur le nombre d'heures qu'on passe à faire de l'enseignement, etc. Donc je pense que c'est peut-être un peu trop restreint de se focaliser sur le coût de la simulation, même si ça nous saute aux yeux, évidemment, parce que c'est nouveau et puis qu'on essaye d'avoir un modèle économique, parce qu'en plus, il y a d'autres acteurs que l'université qui sont impliqués dans ces centres de simulation, et les hôpitaux, eux, ils sont en train de... ils comptent. Hein.
Oui, pardon. En plus... Le coût doit sûrement être difficile à estimer parce que là où peut-être ce que tu dis, là, les 50 euros, je ne sais pas comment c'est calculé, mais dans l'hypothèse où la simulation se développerait, ce qui est a priori la tendance, les coûts vont augmenter et donc ça ne sera pas 50 euros. Alors je ne sais pas comment c'est calculé. Est-ce que c'est sur une estimation de ce qui se passe actuellement ? Est-ce que vous entendez ou non ? Non, vous n'entendez pas. Est-ce que vous pouvez vous décaler sur le micro là ? Parce que là, c'est important.
Ça. Oui, je suis désolé d'avoir lancé ce débat, mais il est important, vous savez bien. Alors, juste pour dire aux doigts, tout ça, ce sont des estimations. Avec Isabelle Richard, on avait évalué le coût des études de médecine à peu près aux alentours de 50 000 euros. Donc, qui est quand même... Hein ? Oui, premier et deuxième cycle, oui, exactement. Et donc, mais c'est aussi, vous avez très bien dit, hein, M. Touzé, c'est à évaluer, c'est à préciser, en sachant quand même qu'on est, là encore, je ne veux pas du tout polémiquer, c'est pas du tout mon objectif, mais en France, les études de médecine en particulier sont parmi les moins chères du monde. du monde voilà. Et alors, ce que je voulais te dire, c'est que ces 50 euros sont évalués un peu... Non, je les ai évalués à la louche. Enfin, je les ai évalués de façon à équilibrer notre budget, si tu veux. Quoi. Ah, c'est ça, surtout. Mais donc, voilà. Non, mais ce qu'ont dit les étudiants, évidemment, est très important, et ce n'est pas forcément à eux de payer. Mais on nous répond souvent, et vous le savez bien, que la simulation coûte cher. Et attendez, c'est pas... Alors là où tu as raison, Dan, c'est que si on veut avoir des simulateurs assez sophistiqués, comme on vient d'acquérir un simulateur d'interventionnel vasculaire, là aussi, il faut sûrement mutualiser les matériels. Et puis, enfin, deuxième point important dont vous allez peut-être discuter, c'est le numérique. La simulation numérique arrive, Et là, je dois dire que ce que j'ai vu, moi, ça, c'est assez impressionnant. Et je pense que si ça coûte très cher, mais ça sera mutualisé, je pense que ça reviendra, on arrivera à avoir des coûts sûrement beaucoup moins importants grâce à cette simulation numérique. Oh ben, quand, simulation numérique, donc c'est les jeux sérieux, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On a quelques exemples de ça. Alors, on pourra en parler longtemps, mais les jeux sérieux, il y en a, il faut faire très attention, parce que sur ceux qui existent aujourd'hui, il y en a 20% qui ont un intérêt pédagogique, quasiment. Beaucoup sont sûrement à écarter. Quant à la réalité virtuelle, il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui pour la formation, j'allais dire, de masse, entre guillemets. Je prends un seul exemple, mais pour, par exemple, ce que j'ai vu assez récemment, la formation des e-bots, par exemple. Pour les e-bots, on a la possibilité en réalité virtuelle d'apprendre tous les instruments chirurgicaux en virtuel. Et là, ça fait des économies assez énormes. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais je pense que cette réalité virtuelle, alors ça ne sera pas tout de suite, ça ne sera pas demain, mais il faut vraiment qu'on s'y intéresse beaucoup, parce que dans les 2 ans, 3 ans, 5 ans qui viennent, je pense que ça modifiera beaucoup, beaucoup notre formation.
Si je peux juste réagir là-dessus, c'est vrai que je pense que la question au-delà de ça, c'est la question du coût vis-à-vis de l'efficacité des moyens qui sont développés. Finalement, aujourd'hui, on peut avoir des choses qui sont extrêmement innovantes, effectivement, sur des serious games, extrêmement bien développées, mais qui coûtent aussi très cher. Et après, savoir qu'est-ce qu'on souhaite en fait derrière, quelle efficacité on veut. Et ça, c'est une réflexion qu'il faut effectivement avoir au cas par cas sur les cibles pédagogiques. On parlait d'innovation pédagogique tout à l'heure, mais je pense qu'on a aussi besoin de cibler les besoins. Il y a peut-être des domaines qu'on a besoin d'approfondir aujourd'hui plus que d'autres. Je pense par exemple à la simulation relationnelle. Je pense que c'est vraiment l'avenir de la simulation et même au niveau des études de médecine. Peut-être que par rapport à ça, on a plus de besoins que sur de la simulation procédurale qui soit extrêmement développée, extrêmement technique.
Oui, pardon.
Je crois qu'il y a un monsieur qui veut prendre parole. Là.
Si vous Pierre Rostini, bonjour. Oui, Pierre Rostini, Marseille. Bon, moi, j'aime bien la déclaration de Jean-Claude, parce que Jean-Claude situe le problème exactement où il faut, c'est-à-dire y compris avec le doyen, monsieur le doyen. Il y a un modèle économique. Le modèle économique aujourd'hui, c'est basé principalement pour l'évaluation des coûts sur la formation continue. C'est pour ça que la comptabilité analytique, nous l'avons. Bon, c'est à peu près qu'un centre lourd fonctionne aux alentours de 500-600 000 euros. Et après, on veut savoir quel transfert sur l'université. Bon, c'était la deuxième question qui s'est posée. Ben, dans l'université, quand même, il y a des potentiels de recherche qui sont des modes de financement majeurs. Dans le transfert des compétences, le transfert sur en particulier tout ce qui est virtuel. Et la recherche se fait à partir de cette simulation versus égal transfert après derrière dans les techniques médicales et paramédicales. Donc la recherche, c'est un élément déterminant. Avec nous, avec l'AMU par exemple, à l'université, on développe un axe de recherche qui sera rentable pour le centre. La recherche pédagogique, c'est aussi un élément négociable. Je veux dire, il ne faut pas mettre les études étudiantes, enfin, tout ce qui est universitaire, au statut de ce qu'on fait avec la formation continue. D'ailleurs, quand on regarde les centres canadiens ou américains, ils sont tous à la porte en train de taper, aux portes des subventions. Il ne faut pas croire, parce que là, aujourd'hui, l'économie américaine permet d'avoir une certaine liberté d'investissement, que ça résout les problèmes. Donc, sur le fond, c'est la recherche, c'est la formation continue. Et derrière, c'est la mise à disposition, le transfert des compétences dans le système hospitalier. Parce que sur le fond, tout ce qu'on fait aujourd'hui en simulation, si je prends le virtuel aujourd'hui, si on prend le mannequin aujourd'hui qui existe avec un AR que je connais bien personnellement, eh bien demain matin, on va transférer le virtuel sur l'accouchement vrai. Pourquoi ? Parce que la lunette HoloLens de chez Microsoft, peut-être qu'on va la mettre couplée avec... un échographe 3D pour en faire un accouchement. Et on aura appris sur l'HoloLens l'accouchement pour le faire après derrière en soins réels. Donc je ne crois pas que la question aujourd'hui sur le financement soit discutable, surtout sur la question étudiante, paramédicale. C'est qu'aujourd'hui, le conseil régional a des budgets spécifiques pour la simulation. Pour ce qui est de l'université, ça dépend à quel niveau, je m'excuse pour ce qui est de l'université, mais à quel niveau, mais le curseur de l'investissement du mi-temps hospitalier et au mi-temps universitaire. Sur le fond, ce qui coûte cher dans l'investissement, c'est vrai, mais c'est vite rentabilisé par les coûts que l'on engendre avec la formation continue. Le vrai problème, c'est le coût des personnels et l'investissement personnel terme. Donc après, ça dépend à quel curseur on met l'investissement des MCU, des assistants et des PU dans la formation, et à, niveau, à ce niveau-là, ça se discute université par université. Après, ça dépend des doyens, la relation qu'ils ont avec, avec le corps professoral. Mais après, je ne m'inquiète pas, moi, pour la formation, parce qu'en particulier sur tout ce qui est éducation thérapeutique, ce n'est pas un coup, là. C'est un investissement personnalisé pur. L'éducation thérapeutique, si on prend le cas de l'interprofessionnalité, c'est la visite en commun entre l'interne, et l'interne ou l'externe avec l'élève infirmier. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'investissement, là. Hein. Un mannequin de base qui soit minimum interconnecté avec du Wi-Fi, ça suffit largement, mais avec une évaluation, pour avoir une solution finale. Donc sur le fond, je ne pense pas que le modèle économique qu'on a connu aujourd'hui, qui est le modèle de la formation continue avec des couvrés, ce soit transférable sur les centres quand ils deviennent hospitalo-universitaires avec des GIS, parce que ça par contre, le débat est tout à fait différent, et je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui un GIS qui soit capable de dire, parce qu'on n'a pas assez de recul sur un particulier, sur la recherche, et l'investissement, et surtout le retour sur investissement des GIS, de savoir où on en est aujourd'hui.
Pour juste compléter ou aller dans le même sens de cette discussion financière ou de façon, d'une façon générale qui va également sur l'aspect d'organisation, là on a beaucoup discuté de matériel en fait, hein, les trucs numériques, les mannequins, les machins, mais quand même les formateurs quand même sont derrière, c'est pas eux qui coûtent plus cher quand même, qui coûtent le plus cher et dont on a finalement le plus besoin. Alors, est-ce que les moyens hospitaliers ou universitaires de ces formateurs, outre l'aspect sur lequel on peut revenir dans un instant, c'est le problème de la formation de ces formateurs à cette spécificité qui est la simulation, mais au-delà de ça, avant même cet aspect-là, c'est le problème du nombre de personnes disponibles pour assurer ces enseignements-là. Est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité, est-ce que les enseignants, je dirais, traditionnels, peuvent basculer? Est-ce que si on bascule une partie des enseignants, je dirais, traditionnels vers de l'enseignement par simulation, est-ce qu'on a assez? Est-ce qu'on a besoin d'augmenter? Est-ce qu'on en a trop? Parce que les personnes, à l'hôpital, on sait bien que c'est les personnes qui coûtent de l'argent. Hein, ce n'est pas le matériel. Est-ce que vous avez une idée, vous, là-dessus, comment vous verriez les choses?
Tu as raison, c'est clairement le personnel qui coûte cher. On dit que ça représente en gros 70% des budgets. Hein. Ce que je pense, c'est que dans notre système français hospitalo-universitaire, la répartition est très inégale entre les tâches hospitalières et universitaires, notamment pour les chefs de clinique, qui, à mon avis, sont complètement sous-utilisés, sous-employés par l'université. Et que là, il y a probablement une manne, ou une manne, je ne sais pas, parce qu'elle n'est pas si disponible que ça, elle travaille à l'hôpital, hein. Mais enfin, il y a peut-être un rééquilibrage à trouver. Après, sur les enseignants plus vieux, plus titulaires, il y a souvent des passages dans la carrière où, pendant quelques années, il y a de la recherche, peut-être de façon plus intense, puis après, peut-être plus d'enseignement, ou vice-versa. Et il y a peut-être à recenser peut-être mieux ce temps. Je ne sais pas s'il y a énormément de gras à trouver là, de ce côté-là. Mais en tout cas, Emmanuel, tu réagiras sur les chefs de clinique. Je pense que il y aurait une vraie négociation à avoir avec les hôpitaux qui oublient qu'on leur fournit à 50% du temps des médecins qui travaillent en fait à 90% du temps pour l'hôpital.
Alors je confirme ce que dit Benoît. Alors les chefs de clinique, c'est sûr que c'est une manne intéressante parce que c'est une manne jeune et qui est encore, je pense, malléable. On peut sûrement les embarquer dans la simulation dès qu'ils prennent leur poste, voire même avant, que ce soit un peu une condition, qu'ils se soient investis dans l'enseignement pour avoir le poste de chef de clinique. Alors nous, par exemple, à Caen, on a mis un chef de clinique au centre de simulation cette année. Donc voilà, enfin, je pense que c'est comme ça, c'est en anesthésie-réanimation, mais disons que la discipline universitaire, la mission universitaire, elle est bien au centre de simulation. Après, pour les plus anciens, je pense qu'il y a aussi évidemment une manne importante. Hein, enfin, il y a de la ressource humaine. Qui n'est pas investi dans l'enseignement, on le sait bien. Il y a beaucoup d'hospitaliers universitaires qui passent leur temps à l'hôpital. Hein. Donc ça... Mais alors après, pour faire changer des personnes qui sont en milieu fin de carrière, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut plutôt miser sur les plus jeunes et voilà, que les chefs de clinique s'impliquent de façon quasi systématique dans la simulation.
Oui, si je peux réagir par rapport à ce qui était dit. Effectivement, les CCA, les chefs cliniques assistants, finalement, sont quand même, ont quand même une activité universitaire qui n'est certainement pas assez développée actuellement. Après, ce qui est intéressant avec la simulation, c'est que finalement, ça regroupe plein de problématiques de l'enseignement de manière générale, dans le sens où la pédagogie, en fait, en tant que telle, n'est pas assez valorisée. Et peut-être que finalement, si on arrivait à valoriser beaucoup plus la pédagogie à l'université, on n'aurait pas de mal à attirer des CCA, à attirer en fait des enseignants, des médecins qui auraient en fait envie de s'investir à plein temps là-dedans. Moi, là, récemment, j'étais à l'hôpital virtuel de Lorraine pour visiter l'hôpital virtuel et en fait, ils ont des enseignants, des médecins qui sont à plein temps dans cette activité-là, de formation des étudiants. Alors, il ne faut pas de clinique, certes, de la clinique pure telle qu'on a l'habitude de la voir, mais ils font quand même de l'enseignement sur de la simulation et ça paraît tout à fait normal. Je pense que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui dans beaucoup de centres de simulation et ça pourrait être intéressant donc d'intégrer en fait ces réflexions-là en fait au niveau du statut hospitalo-universitaire, je rappelle qu'il y a quand même une réforme en ce moment, des réflexions en tout cas autour de ça, et ce serait intéressant donc, d'y intégrer la simulation.
C'est juste, hein, c'est une très bonne. Ah, vas-y, prends la parole. Mais c'est un élément que vous signalez qui est important, où il y a effectivement, par exemple, pour la valorisation universitaire des gens qui vont être nommés, par exemple, professeurs, enfin, PUPH ou MCUPH, en tout cas pour la partie médicale, il y a maintenant la prise en compte de l'activité d'enseignement avec les scores, la SIAPS par exemple, qui commence à arriver. Mais ça traduit un changement en tout cas qu'on n'avait pas autrefois. Donc
le changement
frémit. Je crois que ça va dans le bon sens en tout cas.
Le changement frémit effectivement pour les hôpitaux universitaires. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que attention, il faut que le curseur se positionne bien. Ce qui fait notre force en médecine en France, c'est bien statut hospitalo-universitaire. C'est-à-dire qu'on est crédible parce qu'on soigne des malades et qu'on va enseigner. Si on se met qu'à enseigner et qu'on soigne plus de malades, ça n'ira plus. Donc attention, rééquilibrer le curseur, mais il ne faut pas qu'il aille trop loin, sinon on ne sera plus crédible comme enseignant. Hein, que dire à un enseignant qui n'a pas vu un malade depuis 2 ou 3 ou 4 ans? Comment voulez-vous qu'il enseigne correctement? Les choses bougent vite en médecine.
François Lecomte de Paris. Donc, je vois avec intérêt que les représentants des étudiants en soins infirmiers et en médecine sont tout à fait partants pour la simulation. On a essentiellement parlé d'évaluation formative. À un moment donné, nous avons parlé d'évaluation tout court, donc sous-entendu évaluation sanctionnante. Nous sommes en train d'essayer de développer des outils pour évaluer les étudiants. Comment vous vivez le fait qu'un jour, peut-être, vous serez évalué sur simulateur ou en tout cas par la simulation?
Alors, nous, personnellement, on ne voit pas la simulation comme un moyen d'évaluation. D'évaluation tout court, ce serait plus un moyen de formation. Nous, l'évaluation, on l'a déjà sur les terrains de stage. On a notre grille de compétences, on est évalué avec des encadrants, les tuteurs de stage. On ne veut pas aller vers l'évaluation de la simulation sur l'apprentissage en formation.
Évaluation de l'étudiant par la simulation.
Oui, oui, tout à fait. Mais pour ça, on veut garder le côté stage. Je pense que on ne peut pas évaluer non plus un étudiant sur une situation de simulation. Il faut que ce soit le moyen d'apprentissage, mais il faut que l'évaluation elle se fasse sur le terrain de stage. Sinon, ça n'aurait pas de sens.
Je me permets d'intervenir. Je pense que, enfin, en tout cas, à Rouen, on a une expérience qui est celle des ECOS. Hein, donc, c'est des patients simulés. Et les étudiants de sixième année passent sur des stations qui sont strictement reproductibles, et c'est même beaucoup plus juste qu'en stage, parce qu'en stage, on peut tomber sur le bon cas, sur le cas qui est facile, le cas qu'on a vu la veille. Voilà. Là, en faisant passer les étudiants sur 5, 6, 7, 8 stations simulées, eh bien, on est dans une situation simulée clinique qui reproduit une situation parfaitement, et on évalue très précisément de façon reproductible pour chaque étudiant, et avec justice, puisqu'ils seront tous soumis à la même évaluation. On évalue correctement les étudiants. Donc je ne sais pas s'il faut pas envisager ça sur le long terme. Vous savez, qui dit apprentissage dit évaluation à un moment donné. Vous allez avoir des outils modernes, il faudra les utiliser, moi je crois, pour l'évaluation. À un moment donné, c'est incontournable.
Je pense que c'est un débat qui doit être fait, c'est sûr, mais nous, le problème actuel, c'est qu'on ne peut pas le mettre en place. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, tous les étudiants n'y ont pas accès. Du coup, la notion de justice, ça voudrait dire que dans des IFSI, on va avoir des étudiants qui vont être évalués par simulation. Dans d'autres IFSI, il n'y aura pas du tout la possibilité de le faire, donc ce sera que sur les terrains de stage. Et ça, ça crée encore une inégalité, mais à cause du territoire et de la mise en place sur le territoire de la simulation. Après, c'est sûr, si on avait la possibilité de le faire partout, pour tous les étudiants, pourquoi pas, ce serait complètement discutable. En l'état actuel des choses, pour nous, c'est inégalitaire. Voilà. C'est peut-être une bonne voie. Tout à fait, c'est à réfléchir. Ouais, ouais.
Moi, je vous rejoins effectivement sur la question des ECOS. Il faut savoir qu'en fait, actuellement, on est quand même dans la réflexion de la réforme du second cycle des études médicales. Et c'est vrai que les ECOS, justement, ont été mises en avant pour en fait pour pouvoir évaluer les étudiants sur leurs compétences. Nous, on n'exclut pas, si un jour on peut avoir un système national ou en tout cas qui mette à contribution les ECOS. Je pense que la formation doit être effectivement sur les compétences et l'évaluation va forcément avec. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas forcément mettre soit l'un, soit l'autre de côté. Les deux sont importants et les deux sont indispensables. Et ça pose aussi la question du coût, encore une fois, est-ce qu'on préfère mettre les moyens sur l'évaluation, sur la formation, sachant que les deux sont indispensables.
En complément de ça, vous avez un micro ou non ? Bah attendez, il y en a des micros dans la salle, normalement, on devrait pouvoir vous en donner un, non ?
Voilà. Oui, ça marche, super. Francine Herbreteau, cadre du centre de simulation d'Angers et formatrice à l'IFSI. Alors, je voulais revenir quand même sur ce que vous venez de dire concernant l'évaluation, puisque dans le programme de 2009, les étudiants infirmiers sont évalués, notés en mode simulé pour la transfusion sanguine et l'injection sur le site implantable. Donc, ça existe déjà. Voilà, je voulais rappeler cet élément.
Ce que j'entendais, c'était la simulation en amont des stages, que l'évaluation ne devienne pas systématique en amont des stages. Oui, après, pour les UE, qui sont ceux de la transfusion sanguine, de la prise de sang en première année, oui, bien sûr, quand c'est capable, c'est possible de le faire. L'idée, c'est vraiment de le développer partout pour ces UE-là, ce qui n'est pas fait actuellement. Mais oui, on reconnaît tout à fait. Ce que j'entends par la simulation, c'est pas la simulation par... moi, je vois, par exemple, dans mon IFSI, à Évreux, on n'a pas les moyens du tout d'avoir la simulation, comment dire, comme elle peut l'être développée à Angers. C'est ce que j'entends par là. J'entends pas.
Prenez le micro, là.
Quand vous parlez de simulation, vous réduisez la simulation uniquement à la simulation haute fidélité, pleine échelle. Or, la simulation, il y a tout un pan de la simulation, et là, il y en a dans tous les IFSI, qui est la simulation procédurale depuis de nombreuses années, et que l'on appelle de temps en temps basse fidélité. Moi, je préfère le terme simulation procédurale, et qui permet aujourd'hui d'évaluer de manière normative les étudiants, et c'est dans le programme, c'est obligatoire, et qui existe partout, puisque c'est dans le programme.
Je pense que j'ai pas suffisamment étayé mes termes pour que ce soit compréhensible, c'est pour ça, mais oui, j'entends bien du coup que dans l'évaluation de ces UE-là, sur la forme de simulation, comme vous le dites, c'est tout à fait procédurel, oui, tout à fait, c'est entendable. Moi, je parlais, on était plus, enfin, j'avoue que c'est peut-être un défaut de ma part, j'étais plus sur la simulation davantage poussée, comme ça peut l'être fait dans les IFSI où il y a les moyens, avec les salles où les étudiants peuvent être mis de côté, seuls, dans un cadre vraiment qui représente le milieu du soin. C'est ce que j'ai pas suffisamment expliqué, et je pense que c'est ce qui a créé... un décalage, il y a un quiproquo.
Oui, en tout cas, c'est bien de l'avoir expliqué, parce qu'effectivement, apparemment, c'est réglementaire. Donc, c'est peut-être important que ça soit signalé, peut-être à ceux qui ne le savent pas.
Il y a des unités d'enseignement au sein de la formation pour lesquelles on est évalué sur la transfusion sanguine. On a des UE qui sont sur chaque année de formation, donc sur les 3 ans, tout à fait. Moi, ce que j'entendais, c'était la simulation vraiment poussée. Et du coup, l'évaluation, je voyais ça en amont du stage comme remplacer des terrains de stage par l'évaluation de la simulation. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un gros quiproquo et je ne contredis pas du tout cette méthode-là. Au contraire, bien au contraire, on va vers ça de toute façon et ce serait complètement idiot d'aller à l'encontre de cette idée-là. Du coup, j'espère que j'ai bien reclarifié mes propos.
C'est bon, ne vous inquiétez pas.
Moi, je voulais...
Juste un commentaire
par rapport à ça. Je pense que la question aussi, c'est la question de l'inégalité territoriale aujourd'hui. Moi, j'ai parlé pour les UFR de médecine, mais il y a des UFR de médecine, je pense notamment à Angers, je pense aussi à Caen, à Nice, qui sont vraiment, il y en a d'autres, qui sont vraiment en avance et qui ont beaucoup développé d'innovations pédagogiques autour de ça. À côté de ça, il y a aussi beaucoup d'UFR de médecine, où en fait il n'y a pas forcément de centre de simulation extrêmement développé, et ça crée quand même une injustice et une inégalité de formation pour les étudiants. Et je pense que ça, c'est vraiment le défi qu'on va avoir là dans les prochaines années, c'est que de permettre à tous de pouvoir avoir accès aux mêmes moyens et aux mêmes, enfin, aux mêmes moyens d'études.
Moi, je voulais juste revenir sur les formateurs et notamment la place des médecins hospitaliers. On a beaucoup parlé des hospitalo-universitaires, mais finalement, je pense que notamment les praticiens hospitaliers en CHU, on a tous la formation au lit du malade. Et du coup, beaucoup de praticiens hospitaliers se sont placés dans les centres de simulation parce que c'était une continuité de leur travail qu'ils faisaient déjà au quotidien. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout universitaire. Donc après, c'est juste des organisations locales, de la bonne volonté de tout le monde de détacher les praticiens hospitaliers. Et puis, c'est aussi, c'est vrai, alors c'est encore plus vrai dans la formation continue, parce que c'est compliqué pour un chef de clinique d'aller former les seniors. C'est plus facile pour un praticien hospitalier qu'un peu de bouteille. Donc c'était ma question, c'était juste de dire, il n'y a pas que les hospitalo-universitaires, il y a aussi les médecins hospitaliers purs qui... sont habitués à l'enseignement, mais qui finalement ont une place qui n'est pas tout à fait très bien reconnue.
Je suis complètement d'accord. Hein. Heureusement d'ailleurs que nos collègues praticiens hospitaliers sont là, sinon on ne s'en sortirait pas. Hein. Simplement, la petite nuance que je fais, c'est qu'un chef de clinique, il est statutairement à mi-temps à l'université, donc on peut lui demander, praticien hospitalier, s'il le souhaite, moi j'y suis très favorable, mais s'il ne le veut pas, on ne peut rien lui dire.
Mais c'est vrai qu'ils sont quand même très participants quand même, hein, en tout cas dans certaines disciplines. Et c'est pour ça tout à l'heure quand on évoquait évidemment, est-ce qu'on a de la marge ou pas de la marge, enfin, où est-ce qu'on peut aller chercher un peu de la compétence, il y en a beaucoup là.
Là, c'est ce que dit Benoît, c'est nous on a entre guillemets un peu la main sur les universitaires puisque c'est nous qui qui les employons, mais c'est vrai que les praticiens sont très très impliqués dans les centres de simulation et d'une manière générale dans l'enseignement auprès des étudiants en santé, mais c'est vrai que pour leur dégager du temps hospitalier, c'est pas simple, et puis c'est un peu dans la négociation, oui, mais à ce moment-là, il y a un coût, enfin voilà, on retombe dans des histoires de comptabilité avec l'hôpital.
Oui, bonjour, Nicolas Seyer, donc hôpital de la Tour à Genève. Je me posais une question, en fait, on a beaucoup parlé de la formation et des formateurs, surtout, et je me posais la question sur la formation des formateurs. On a entendu que, justement, dans les petits IFSI, il n'y avait pas beaucoup de formateurs qui étaient prêts ou qui étaient formés pour l'usage de la simulation. Ça peut être pareil aussi sur des petits centres universitaires qui n'ont pas les moyens. Et lorsqu'on regarde pour devenir formateur en simulation, il y a autant d'offres que de centres de simulation en France pour des diplômes universitaires. Donc qu'en est-il en fait de la formation des formateurs? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Est-ce qu'il y a des guidelines communes pour former des formateurs à la simulation, afin justement que les critères d'évaluation après pour les étudiants soient communs, quel que soit finalement le formateur et le lieu de la formation par simulation.
Alors je vais passer la parole à François Lecomte qui justement fait pour le compte, si je puis dire, de la Sofracims, un joli jeu de mots, qui fait justement un travail de préparation, d'identification, de standardisation, voilà, des formations qu'on appelle les formations courtes. Puis il dira un petit mot également, je pense, sur le problème des diplômes d'université.
Oui, merci beaucoup. Donc, on a travaillé, on avait présenté des résultats préliminaires en 2016, un état des lieux, à Clermont, et il y avait effectivement une quinzaine de diplômes universitaires. Et il y avait aussi pas mal de formations courtes qui existent. Et il y a un véritable...
micro.
Et il y a une... Donc en tout cas, il y a une relative homogénéité de ces diplômes universitaires et des formations courtes, mais il y a une véritable demande de la part de la Sofracims d'aller plus loin dedans, et avec un groupe de médicaux et paramédicales, nous avons fait des recommandations sur demande de la Sofracims pour essayer de voir quels étaient les items qui étaient nécessaires en formation de formateurs de quelques jours. Voilà. Et donc, bah, vous pouvez venir tous pour... c'est vendredi matin. Pour écouter ces recommandations qui en sont là à la deuxième relecture de la part de la Sofracims. Enfin bon, il y a eu de très petits changements, et je pense que maintenant on va savoir quelles sont les compétences nécessaires pour être formateur en simulation. Voilà, et c'est quand même quelque chose d'important.
Si je peux me permettre, Christine Amirati, Amiens. Je voulais faire une remarque concernant la formation des formateurs et des formateurs, y compris dans les petits centres. Donc à Amiens, donc on a un centre de simulation, 9000 personnes formées, 7000 en formation initiale, identique entre les formations universitaires et les formations pour l'instant non universitaires, puisqu'on peut rappeler quand même que les formations dites entre guillemets paramédicales sont en voie d'universitarisation. Donc je rejoins complètement l'idée qu'à un moment il n'y aura pas les cours pour et les cours pour, mais bien des enseignements qui seraient avec des bases communes pour l'ensemble des étudiants en santé. Pour revenir sur la formation des formateurs, je pense que c'est une vraie démarche institutionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, si on pense institutionnellement que la simulation, c'est une technique pédagogique importante dans le cadre de la formation des étudiants en santé, eh bien on se met en ordre de marche pour que ça fonctionne. En ce qui nous concerne, l'ensemble des chefs de clinique est formé tous les ans à la simulation. C'est une obligation. Le doyen le rend obligatoire, et avec mes collègues, pendant 4 jours, on forme les chefs de clinique à la simulation, pour de la simulation qui est une simulation plutôt procédurale en sémiologie. On se met en ordre de marche et on forme des tuteurs étudiants qui vont eux-mêmes former leurs pairs. Donc ça se fait à Nice, ça se fait maintenant à Amiens, on a copié Nice, et ça se passe très bien. On a même fait en sorte qu'il y ait des tuteurs qui soient des tuteurs infirmiers, élèves infirmiers, qui forment les étudiants en médecine sur certains gestes infirmiers. Donc c'est bien du transprofessionnel. Et en ce qui concerne maintenant les IFSI dont vous parliez, on s'est mis aussi en ordre de marche pour que dans l'ensemble de la région, on puisse former des formateurs dans les IFSI, ce qui veut dire pour nous des coûts de formation qui sont inférieurs, mais c'est un challenge sur l'avenir. Et je rejoins ce qui a été dit par Jean-Claude, évidemment, on est en déficit, mais évidemment, à un moment, il faut savoir, j'ai envie de dire, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et dès l'instant où on se place dans la simulation, dans le cursus en santé, on essaye de s'en donner les moyens. La dernière chose que je voudrais dire concernant les numériques et l'enseignement numérique, actuellement, tous les datas montrent qu'un enseignement par e-learning ne suffit pas et que les étudiants eux-mêmes réclament le présentiel et le tutorat en présentiel, et que donc le e-learning est une solution, mais ça n'est pas la solution à l'ensemble de la pédagogie médicale et la pédagogie en santé. C'était ces 3 points que je voulais rapporter.
Merci. Vous voulez commenter ? Allez-y.
Si je peux juste réagir sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on a aussi besoin d'avoir un réinvestissement au niveau de la pédagogie en présentiel, au niveau d'une pédagogie en fait de tutorat entre un enseignant et un étudiant. Je pense que parfois la simulation peut être juste seulement un prétexte aussi de rencontre entre un étudiant et un enseignant. Il faut voir qu'aujourd'hui, là je parle pour médecine, mais en fait il y a des amphis parfois qui sont vides pendant des cours magistraux parce que les étudiants en fait préfèrent travailler leur collège à la maison, parce que finalement l'évaluation ça va être sur quoi ? Sur des connaissances théoriques, donc ils seront plus efficaces comme ça, et le système en fait fait que ils ne viennent plus en cours et donc ils ne sont plus forcément au contact de leurs enseignants, et c'est là aussi où la simulation permet de retrouver ce contact là. Après juste par rapport à la formation des formateurs, je suis aussi d'accord avec vous, je pense que c'est aussi une priorité qu'il faut donner. Pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas forcément axée comme elle pourrait l'être, et ça, ce sera après aux décisionnaires de prendre des décisions vis-à-vis de ça. En tout cas, nous, c'est pourquoi on se bat. Et un dernier point, je pense aussi que avoir par exemple un mannequin haute fidélité qui coûte extrêmement cher, qui est extrêmement innovant, ça ne sert à rien si derrière on n'a pas un encadrement qui est efficient, qui est correct, avec un débriefing adapté, et tout ça passe par la formation des formateurs. Et ça, je vous rejoins, c'est une décision après à prendre sur le long terme.
Oui, une dernière question avant de finir à 15h30 à l'heure.
Bien joué, là, le rappel.
On a parlé de la partie études. Une fois qu'on a fini ces études, qu'est-ce qu'on fait de la simulation? Est-ce qu'on l'utilise encore et pourquoi?
Je peux répondre? Je pense que la question aussi, c'est quel médecin on veut pour demain. La formation continue, c'est quand même une obligation professionnelle. Alors certes, aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'enveloppe budgétaire qui est allouée à ça. Et c'est compliqué aujourd'hui de mettre en place une formation continue, notamment par rapport à la simulation. Je pense qu'après, c'est aussi une des décisions politiques qui peuvent être prises vis-à-vis de ça. Et je pense que ça reste quand même indispensable pour que les médecins de demain soient toujours les plus efficients possibles pour avoir une médecine qui soit efficiente. Et pour les patients de demain.
Oui, de la même manière, je vais éviter de prévoir à phraser, mais de toute façon, on sait que les pratiques évoluent, on sait que on a une évolution des bonnes pratiques qui se fait de manière très rapide. La formation continue, elle est nécessaire, et si on peut le mettre en place dans la forme initiale, c'est bien. Si on peut le faire apparaître dans la continuité, dans la formation continue, c'est mieux, c'est sûr.
Je pense que c'est un débat qui pourrait nous mener sur une autre table ronde. Je pense que ça pose la question aussi de la recertification, peut-être. Il y a ça qui viendra peut-être. Et puis aussi par des réorientations quand on veut changer de discipline. Enfin, on sait que maintenant on peut faire un nouveau DES. On peut faire une fois qu'on a fini un DES. Plus tard, on peut redemander à faire un nouveau DES. Donc, la simulation va retrouver naturellement sa place là aussi.
Clément, c'est finalement la forme de simulation qui est la plus développée. C'est la post-universitaire, parce que c'est celle qui rapporte des sous, qu'on peut faire prendre en charge par la formation médicale continue, le DPC, etc. Donc oui, il y a évidemment une place pour cette simulation. On en est peut-être encore au balbutiement. D'ailleurs, il y a plein de choses à développer. Emmanuel l'a dit, par exemple, la recertification, c'est un vrai sujet, un vrai débat. Qu'imaginer qu'on repasse son permis de conduire tous les 5 ans et qu'on repasse sur mannequin tous les 5 ans n'est peut-être pas complètement fou. Et il faudra sûrement en discuter.
Oui, s'il vous plaît. Je suis ici, là. Voilà, Eric Vasseur, cadre formateur à l'IFSI de Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France. Donc, je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit Christine Admirati, monsieur derrière moi, puisqu'on parlait du cadre formateur, de sa formation, de ses compétences. Donc, j'ai eu la chance d'être formé à Simu Santé à Amiens. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'avec peu de choses, ce qu'on a appris à Amiens, c'est qu'on développait l'aspect pédagogique et qu'on pouvait faire de la simulation pleine échelle, avec trois fois rien, avec un morceau de compresse ou une tache de sang, et que les IFSI, c'est vrai, n'ont pas attendu des centres de simulation pour faire de la simulation procédurale, puisque ça existe depuis longtemps, et que les compétences du formateur, c'est aussi un engagement, une passion, on pourrait dire, et puis les questions éthiques, quoi, et du coup, et c'est en faisant, puisque la simulation n'est qu'un prétexte à développer la posture réflexive, et du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était enrichissant, et qu'avec peu de moyens, on pouvait quand même faire de grandes choses. Enfin, c'est ce que j'ai appris à bien.
Peut-être on va s'arrêter sur ces mots qui sont des mots de bon sens. On a entendu le mot peu de moyens, finalement, après un gros débat sur les financements, et puis posture réflexive, enthousiasme, enrichissement. À tout à l'heure.